France Inter.
Aujourd'hui, la Terre avant les dinosaures, racontée par...
Jean-Sébastien Steyer, je suis paléontologue au CNRS affecté au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
C'est une matinée ordinaire, ce 22 décembre 1938, lorsque Marjorie Courtenay Latimer, alors conservatrice de l'East London Museum en Afrique du Sud, reçoit un appel qui allait bouleverser le monde scientifique. Un pêcheur nommé Henry Goosen capture un poisson étrange dans l'estuaire de la Chalumna River. Marjorie, qui se rendait régulièrement au port pour rechercher des spécimens de poissons afin de compléter les collections de son musée, se hâte d'aller examiner cette prise inhabituelle sans se douter qu'elle allait tenir entre les mains un lien perdu depuis longtemps avec le passé profond de la Terre. Le poisson d'apparence préhistorique, avec ses nageoires charnues et son corps lourd, ne ressemblait à rien de ce que Marjorie avait vu dans ses livres. Elle décide de naturaliser l'animal et contacte l'ichtyologue James Bridley Smith. Après une étude minutieuse, il confirme que le poisson est un sélacanthe, un genre de poisson que l'on croyait éteint depuis la fin du Mésozoïque il y a plus de 66 millions d'années. Le spécimen est baptisé Latimeria Chalumnae, en l'honneur de Marjorie et de la rivière où il avait été découvert. La nouvelle de la redécouverte fait sensation dans le monde entier, réveillant l'enthousiasme pour une créature qui offrait un aperçu rare de la vie aquatique ancienne, très ancienne, et des indices sur l'évolution des vertébrés terrestres. Des expéditions sont rapidement organisées pour trouver d'autres spécimens, révélant que les sélacanthes vivaient en fait dans les profondeurs marines autour de l'Afrique de l'Est. Depuis, plus d'une trentaine de spécimens ont été pêchés, essentiellement dans le secteur du canal du Mozambique et des Comores. Une deuxième espèce a même été découverte en 1997 en Indonésie. Ces sélacanthes modernes, bien que similaires en apparence à leurs ancêtres fossiles, ont peu évolué morphologiquement depuis 350 millions d'années. À cette époque, bien avant l'arrivée des dinosaures donc, alors que les vertébrés à pattes font leur apparition, d'autres créatures surprenantes habitent notre planète dans l'eau et sur Terre. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Jean-Sébastien Steyer.
Bonjour Mathieu.
En 2010, vous écriviez un ouvrage qui racontait les grands oubliés de la paléontologie, c'est-à-dire les animaux qui vivaient donc sur Terre bien avant le règne des dinosaures. Vous qui avez publié l'année dernière Jurassic Park et les sciences chez Belin, est-ce que c'est la popularité des dinosaures qui a complètement occulté le monde animal qui les précédait ?
Oui et non, c'est vrai que pour le commun des mortels, la paléontologie, c'est l'étude des dinosaures, éventuellement l'étude des australopithèques, parce que ça touche à nos origines et donc ça nous touche, et on oublie, par défaut, si je puis dire, en fait, tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire toute l'histoire des tétrapodes du paléozoïque.
Mais alors, depuis que le livre est sorti là, en 2010, est-ce que vous avez le sentiment que la paléontologie, donc votre discipline, a réussi quand même à intéresser le public à autre chose qu'aux dinosaures ou pas? Ou ça reste toujours difficile aujourd'hui?
J'ai l'impression que c'est de plus en plus facile parce que je suis là aujourd'hui, donc c'est un plaisir. Et puis, c'est vrai que c'est un volet tout aussi intéressant que les dinosaures, avec ses extinctions, ses évolutions, ses rebondissements dans le développement de certaines espèces, ses redécouvertes, comme vous l'avez bien mentionné avec la Latimeria, le fameux sélacanthe que l'on taxe de fossile vivant. On sait que le terme n'est plus correct aujourd'hui. On parle d'espèce panchronique parce qu'en fait, l'évolution continue son petit bonhomme de chemin. Donc même si extérieurement, les sélacanthes ressemblent...
Ont l'air de ressembler toujours à ce poisson préhistorique.
Exactement. En fait, intérieurement, au niveau du squelette ou de l'architecture, si vous voulez, osseuse, c'est quand même assez différent.
C'est un long voyage qu'on va faire avec vous, un long voyage évolutif, parce que là, on parle en millions d'années.
Oui, et puis on va parler du Carbonifère, donc cette période très complexe aussi de l'histoire de la Terre, et puis du Permien, et le seul Permien, donc la dernière période de l'ère paléozoïque ou anciennement dite l'ère primaire, elle couvre à elle seule 50 millions d'années quasiment, c'est-à-dire la dernière ère tertiaire et peut-être quaternaire aussi.
Ouais.
Avec
on va essayer de mettre des repères temporels clairs, Jean-Sébastien Steyer, pour essayer de nous accompagner dans ce voyage sans qu'on s'y perde trop. Un voyage sur la Terre d'avant les dinosaures, ça commence quand alors réellement ?
Alors, ça peut commencer dès l'origine de la vie, en fait. Hein. Donc là, on touche du doigt presque 4 milliards d'années. La vie, la planète se forme il y a environ 4,5 milliards d'années. Et 500 millions d'années après, on a les premières briques, si vous voulez, du vivant, ou voire les premières bactéries, en tout cas à 3,8. On a les traces réelles, fossiles, de ces bactéries qu'on appelle les stromatolites. Donc on pourrait démarrer très très loin dans le temps.
On pourrait, mais on va raccourcir un petit peu le voyage.
Voilà, on va se limiter en fait aux tétrapodes, ce qui est déjà une histoire assez intéressante.
Elle commence quand alors exactement?
Alors elle commence, les premiers tétrapodes ont environ 370-380 millions d'années.
Ouais.
Et chose étrange, on pensait que vu qu'ils avaient des pattes, tétra c'est 4 et podos c'est le pied, ils étaient terrestres. Or, on a réétudié tous les squelettes de par le monde, on en connaît une quinzaine à peu près d'espèces dans le Dévonien à cette époque-là, et on s'est rendu compte qu'ils étaient bien incapables en fait, de se déplacer sur la terre ferme.
Donc ils étaient aquatiques.
Donc ils étaient aquatiques, chose confirmée par l'analyse des sédiments, que l'on croyait encore une fois plutôt être des dépôts lacustres, et on s'est rendu compte que c'était des dépôts plutôt marins, peu profonds.
Alors c'est quoi un tétrapode exactement pour... Parce que nous sommes des tétrapodes.
Oui, nous sommes des tétrapodes, tout comme tous les autres mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux compris, bien sûr.
Ouais.
35 000 espèces actuelles et beaucoup plus à l'état fossile.
Ouais. Donc le démarrage, c'est il y a 350-370 millions d'années. À quoi ressemblait la Terre à cette époque, Jean-Sébastien Steyer ? Il faut imaginer quel environnement ?
Il faut imaginer une Terre avec deux énormes continents, un au nord et un au sud. Et ces continents étaient bordés en gros de paléo-mangroves avec des plantes qui n'ont rien à voir avec les plantes actuelles, mais des racines profondes qui plongeaient dans l'eau, et dans ces espèces d'estuaires sans fin vivaient ces pseudo-salamandres géantes avec des pattes.
Mais quand vous dites géantes, c'est-à-dire ?
On est à peu près à 1,50 m. C'est pas tout à fait géant, enfin c'est géant par rapport à la taille moyenne d'une salamandre actuelle, mais c'est pas géant si on compare, c'est stégocéphale, c'est le terme exact en fait avec les dinosaures.
Donc le climat c'est quoi à peu près à cette époque ?
Alors il fait chaud, humide, le taux d'oxygène augmente, on va arriver au carbonifère à un taux d'environ 35%, c'est énorme.
Ouais.
Le taux d'oxygène va redescendre au cours du Permien pour voir un climat plutôt sec et aride à la fin du Permien. Bon, on n'en est pas encore là, mais... Donc on a un environnement très tropical, en fait, hein, avec des grandes forêts à perte de vue, et on a ces animaux qui ont des pattes, mais... Qui sont
dans l'eau, alors.
Voilà, qui sont dans l'eau, et ça nous a questionnés, parce qu'on pensait, encore une fois, que les pattes étaient apparues pour la locomotion terrestre, alors que c'était des animaux aquatiques. Donc la question se pose, à quoi servaient bien ces premiers membres qu'on appelle chiridiens, parce qu'il y a la présence de doigts.
Ils en avaient combien d'ailleurs ? Ils en avaient 5 ou ils en avaient plus, des
doigts ? Ils en avaient plus. Ça aussi, c'est assez nouveau. On a complété le dégagement des fossiles, on a complété les données, les recherches au Groenland, en Chine, etc. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient pas 5 doigts, mais 7 ou 8 doigts en fonction des espèces.
Mais donc pourquoi là aussi... Pour quelle raison ?
Il n'y a pas de raison, en fait, vraiment, dans l'évolution, mais on se rend compte que les doigts, c'est ce qu'on appelle une néoformation en termes d'embryogenèse, de formation, quand on regarde, en fait, comment se forme un doigt au cours de la formation d'un embryon de souris, par exemple, qui est le modèle un peu classique chez les mammifères, on se rend compte que ça apparaît très rapidement, à partir de rien, un petit décollement, en fait, d'une zone impendiculaire, et vous avez... non pas la présence de nageoires, mais la présence de doigts. Donc tout ça est très plastique, et on pensait que le nombre 5, effectivement, était un peu le nombre canonique, puisque nous, on a 5 doigts, peut-être aussi par anthropocentrisme, mais en fait, non, les premiers tétrapodes avaient 7, 8 doigts. On retrouve cette configuration-là, beaucoup plus tard, au Jurassique, chez un groupe de reptiles marins qu'on appelle les ichthyosaures, et notamment, ils ont des gros yeux, donc ce sont les ophtalmosaures, qui, eux, ont des palettes natatoires, donc ils retournent à la vie aquatique. Ils ne sont pas primitivement, si je puis dire, aquatiques ou primairement aquatiques.
Donc c'est des mieux. Terrestres qui retournent dans l'eau.
Exactement, comme les cétacés aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il y a quelques temps déjà.
On trouve des poissons, donc évidemment, puisqu'on en parle, de ces tétrapodes aquatiques. Ils sont un peu bizarres, non ? Ils ont quelle forme ? Qu'est-ce que vous avez identifié comme beau fossile
pour, Alors, ce sont des poissons un petit peu, effectivement, comme le sélacanthe. On parle de sarcoptérygien, donc un nageoire charnu, en fait, en grec ou en latin. On a des poissons osseux avec ces nageoires très robustes qui étaient très longs, avec un corps fusiforme, mais une tête qui évoquerait aujourd'hui les caïmans ou les crocodiles.
Ouais.
Et puis, ils ont ce qu'on appelle des lépidotriches, c'est-à-dire des baguettes osseuses au niveau des nageoires, ça c'est assez classique. Mais en plus, certains avaient des doigts. Donc les collègues canadiens parlent de fichapodes, un mélange de fiche et de tétrapodes. Et ces fossiles-là, alors on ne parle plus de chaînons manquants non plus, parce que l'évolution n'est pas une série de chaînons qui va de la bactérie jusqu'à l'homme. On parle de mosaïque de caractère, et cette mosaïque de caractère est très intéressante parce qu'elle nous montre que nos classifications à nous, l'humain fait la distinction, doit faire mettre des espèces dans des boîtes, si vous voulez, ou des...
Parce que là, on est entre le monde aquatique et le monde terrestre, finalement. Hein.
Exactement.
On a des attributs qui parlent des deux milieux.
Oui, oui, oui. Et le fait que les premiers tétrapodes étaient restés, si je puis dire, en fait, dans le milieu aquatique, ça pose des questions sur les premières fonctions des membres chirydiens. Est-ce que, quand on regarde les amphibiens actuels, le mâle agrippe chez la grenouille ou chez certaines salamandres, le mâle agrippe la femelle pour la reproduction qui est externe. Il peut y avoir des raisons aussi, enfin une fonction plutôt de ballast. Une main avec des doigts est beaucoup plus... beaucoup plus maniable et peut manier le corps entre deux os ou peut...
C'est ce qu'on voit chez le crocodile aujourd'hui, non ?
Oui, 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 tout à fait. On voit que le crocodile, en fait, quand il est un peu entre deux os, il a les pattes écartées, les doigts écartés.
C'est ça, oui.
Et puis il ne bouge pas et puis il chasse à l'affût.
Ouais.
Ça peut aussi aider les doigts à s'agripper au fond de l'eau, surtout que ces milieux-là étaient très turbides, très chargés en sédiments, en débris de plantes, de bois, de troncs d'arbres. Donc il fallait pénétrer un peu ces environnements complexes et sombres.
Alors il y a un poisson des rivières, justement, comme on le présente pour cette époque, qui s'appelle le tiktaalik. C'est un des fossiles qu'on a retrouvé au Canada, ça, justement.
Oui.
Avec cette tête donc d'alligator,
c'est
crocodile.
Ça.
C'est un reptile herbivore ou carnivore ?
C'est un poisson osseux carnivore.
Ouais.
Ils étaient carnivores, ils présentent une belle couronne.
Donc on n'est pas chez
dedans.
Les reptiles,
On n'est pas chez les reptiles.
On est chez le poisson.
On n'est pas chez les amphibiens non plus, on est chez les poissons osseux à nageoires charnues. Alors tiktaalik a été découvert au Canada, et il y en a un autre, très intéressant aussi, toujours dans les mêmes couches sédimentaires, plus ou moins, qui a été découvert, c'est Elpistostegae.
Si, senior.
qui a été découvert en fait à Miguacha, en Gaspésie. Et j'ai eu le plaisir de visiter le site.
Donc au Québec.
Au Québec, c'est ça.
Ouais.
Et le site est vraiment fabuleux. On est en bord de plage aujourd'hui. Et on était justement en bord de plage il y a 370 millions d'années.
Ouais. Jean-Sébastien Steyer, on va poursuivre le voyage donc, dans cette époque d'avant les dinosaures. Et puis vous répondrez également aux messages, aux questions qui arrivent sur franceinter.fr.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
L'extraordinaire épopée de la vie sur Terre, avant l'époque des dinosaures. Un monde où des créatures gigantesques se livrent une guerre impitoyable pour régner sur notre planète.
Extrait d'un documentaire sur la Terre des géants de la BBC avec vous, Jean-Sébastien Steyer, pour parler de la vie avant les dinosaures. Justement, est-ce qu'on est dans le monde du gigantisme ou pas ? Parce que vous nous parliez de cette salamandre d'1,50 m, on pouvait croiser des libellules géantes de 70 cm d'envergure, mais est-ce que tout était gros comme ça ou pas ?
Non.
Par rapport à nos références d'aujourd'hui, évidemment.
Non, tout n'était pas gros. C'est vrai qu'on zoome sur les grosses espèces, que ce soit chez les dinosaures ou avant, mais par exemple, chez les dinosaures, justement, il ne faut pas oublier que 80% des espèces ne dépassaient pas 2 mètres, 2 mètres 50 environ.
Ouais.
Donc c'est un défaut un petit peu de projecteur. Cela dit, au Carbonifère, donc il y a 300 millions d'années, on a quand même effectivement, vous l'avez dit,
des belles bêtes.
Il y a des belles bêtes, oui, 2-3 mètres de long pour des salamandres. Il y a des mille pattes aussi de 2 mètres de long, Arthroplera.
Un mille pattes de 2 mètres de long, ça doit foutre les chelons quand même. Hein.
Oui, ça doit imposer, effectivement. Ouais. Et puis, il y a des blattes aussi de 10 cm de long environ, qui grouillaient en fait dans ces, dans ces espèces de proto-sols. Donc, en fait, on a une terre, en tout cas, on a une faune digne d'un bon scénario de science-fiction.
C'est ça, oui. Et alors, le fait qu'il y ait plus d'oxygène, est-ce que ça participe justement de ce monde géant par moment ou pas?
Alors, a priori, oui, chez les arthropodes, c'est-à-dire chez les insectes notamment, où la respiration se fait directement par des trous qu'on appelle des pores ou des foramen, et qui vont, ces trous-là, alimenter en fait en oxygène les organes internes. Donc, il faut une pression en oxygène d'autant plus grande quand on est grand. Mais on s'est rendu compte qu'on trouvait encore des libellules géantes, ces fameuses méganeurides, à la fin du Permien, quand le taux chute. Mm-hmm. Donc on est en train aussi ici de revoir un peu notre copie.
Il faut tout réviser en permanence. Hein.
Mais c'est ça qui est bien en paléontologie. Ouais.
D'ailleurs, on a longtemps pensé que les premiers tétrapodes, comme des pionniers qui auraient eu pour mission de coloniser la terre ferme, mais cette histoire est complètement fausse, mais elle est restée un peu dans les esprits, hein, en évoquant cette sortie de l'eau, comme si en plus il n'y avait eu qu'une sortie de l'eau.
Oui, 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 tout à fait. Il n'y en a pas eu qu'une, il y en a eu trois, et nous faisons partie de la troisième et dernière, a priori. La première étant les plantes, hein, qui sont sorties de l'eau bien avant justement, la deuxième, ce sont les arthropodes.
Ouais. Donc, en millions d'années, c'était quand
en millions d'années, les plantes, on est à peu près à la louche, hein, à 400, les arthropodes juste derrière, et puis les tétrapodes, donc 370 environ.
Ouais.
Donc, sans la première terrestrialisation, là aussi on parle plutôt de terrestrialisation parce que la sortie des eaux n'est pas un but en soi dans l'évolution.
Il n'y a pas d'idée de conquête au fond.
C'est ça, il n'y a pas de but, il n'y a pas de raison. Et ça nous attriste, nous paléontologues, de voir que finalement on résume en fait l'évolution à une sorte de progression. J'étais en gare tout à l'heure et je viens de voir une couverture de Nat Geo, le magazine quand même, ouais. Avec cette espèce de gradation du chimpanzé jusqu'à l'homme.
C'est ça,
pour traiter.
Comme si les choses étaient linéaires, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, et c'est pas du tout en fait linéaire. Il faut penser l'évolution comme une arborescence, un buisson en fait très touffu, et nous faisons une partie d'une petite branche comme les autres finalement.
Oui, mais c'est plus difficile à comprendre. Il y a un peu plus de complexité, donc
oui.
C'est pour ça que parfois on a cette tendance à vouloir simplifier un peu trop les choses. Dans quelle région du monde est-ce que vous menez des fouilles, parce que vous allez beaucoup sur le terrain, Jean-Sébastien Steyer, pour essayer de trouver ces créatures d'avant les dinosaures ? Alors, c'est quoi les bons spots ?
Alors, l'Afrique est très intéressant comme continent parce que assez peu inexploré. J'ai travaillé dans le Sahara nigérien, dans le Sahara algérien, grâce à Philippe Taquet.
Ouais.
Et puis ensuite, avec l'équipe internationale, on a switché, si je puis dire, du côté de la Zambie, de la Tanzanie. J'ai travaillé un petit peu en Afrique du Sud aussi, où j'ai des jeunes collègues, Julien Benoît et Valentin Buffa, qui travaillent là-bas, et qui, justement, il y a un grand bassin sédimentaire qui va de l'Afrique du Sud jusqu'au sud de la Tanzanie,
oui.
Et qui est un terrain de jeu pour nous formidable.
Vous dites que vous aimez particulièrement les déserts de pierre.
Oui, c'est pas parce que...
Même si vous n'avez rien contre la végétation, mais vous aimez bien justement ces espaces dégagés, c'est ça ?
Oui, oui, ces grands espaces dégagés, parce qu'on a l'affleurement, en fait, on a les roches qui sont visibles directement en surface. Donc là, on organise des sortes de battues, si vous voulez, on se met en ligne, et puis on quadrille le terrain, on marche. Et puis, dès qu'on trouve la moindre esquille osseuse ou écaille incrustée encore dans la roche, on s'arrête, on sort le pinceau, on va dégager tout autour pour voir s'il y a une connexion. Et si on a de la chance, il y en a une. Et là, on sort plutôt, en fait, ouais. Les marteaux, les burins, et on fait des trous tout autour pour faire d'autres connexions.
Qu'est-ce que vous appelez une connexion, exactement ?
Connexion osseuse, on vérifie si l'os ou l'élément squelettique est en connexion anatomique avec une autre partie, en fait.
Qu'est-ce que vous avez découvert de majeur, s'il fallait résumer dans un CV accessible, Jean-Sébastien Steyer, vos œuvres, qu'est-ce que vous retenez de vos fouilles, par exemple au Niger ou...
Au Niger, on était ravis de tomber sur tout un site fossilifère très riche, en fait, des carcasses complètement mélangées de paréazores. Donc là, on est à peu près à 255 millions d'années à la fin du Permien. On a des gros reptiles cuirassés, quadrupèdes, herbivores qui se déplaçaient un peu sur la Pangée de l'époque.
C'est les grosses vaches de l'époque, quoi,
un petit peu. Oui, en gros. Et puis, on a tout un troupeau qui a été pris par une crue et qui s'est fossilisé, en fait, à cet endroit-là.
Et vous avez retrouvé le troupeau ?
On a retrouvé, en fait, le troupeau complètement défoncé, quoi. Enfin, ouais. Complètement démantibulé, désarticulé. On marchait quasiment sur les squelettes et on est dans une zone entre le nord du Niger et le sud algérien où il n'y avait pas grand monde après 3 semaines de prospection dans le Sahara. C'était super.
Et donc ça, ça fait partie des découvertes exceptionnelles. Hein.
Oui, parce qu'en fait, c'est un site qui nous a montré qu'en fait, la faune de l'époque, donc sur cette Pangée, était déjà assez diversifiée. On avait des données, comme je l'ai dit, en Afrique du Sud.
Oui.
On avait des données aussi sur le grand bassin de Perm en Russie. On voyait que les espèces ou les genres étaient plus ou moins les mêmes. Mais on s'est dit, on va quand même vérifier entre deux, donc dans cette région-là de l'Afrique, pour voir si on a une continuité ou pas. Et là, bingo, on a observé et découvert que des nouvelles espèces, donc des espèces endémiques, qui étaient apparemment là parce que le climat le permettait.
Et qu'est-ce que vous faites de ces découvertes ? Alors, une fois que vous avez justement mis au jour ces fossiles, qu'est-ce que vous en faites exactement ?
Alors, on les exporte pour études temporairement avec les autorisations des ministères des pays, parce que chaque fossile d'un pays correspond ou appartient plutôt au patrimoine du pays en question. Donc, après les exportations temporaires, les fossiles arrivent à Paris, au laboratoire de préparation et de dégagement. Ils sont minutieusement dégagés quasiment grain par grain, en fait, hein, au niveau de la roche, pour avoir accès complètement à l'anatomie, la morphologie. Éventuellement, on peut les scanner. Ensuite, on va repérer chaque ossement, on va les dessiner, identifier les espèces, les remettre dans leur contexte évolutif en faisant ce qu'on appelle une phylogénie, c'est-à-dire une étude de relation de parenté, grâce à l'anatomie comparée. Et ensuite, on va avoir une petite histoire
à raconter pour une publication scientifique.
Exactement.
Tant qu'à faire. Mais alors, un troupeau comme celui dont vous nous parliez, vous parvenez donc à le scanner entièrement et à le faire voyager ou non ?
Non, malheureusement, non. On a eu le temps d'exporter temporairement quelques crânes, des os longs, quand même, des membres, bien répertoriés, bien sûr, avant échantillonnage partiel. Pour faire des études notamment histologiques, c'est-à-dire qu'on va observer grâce à des scans ou parfois grâce à des coupes, mais c'est destructif, la structure interne des os pour faire vraiment parler les organismes fossiles.
Jean-Sébastien Steyer, vous êtes spécialiste des stégocéphales, amateur des têtes à plaques, c'est ça ?
Oui, stégé. En grec, c'est la plaque. Un stégosaure, c'est le dinosaure super connu avec des plaques sur le dos. Et puis, céphalée, c'est la tête. Et ces têtes à plaques étaient ces espèces de salamandres crocodiliennes plus ou moins géantes, donc qui vont de moins 380 millions d'années. Et les toutes dernières s'éteignent en pleine période des dinosaures, il y a moins 100 millions d'années.
Le Niger péton, il en fait partie ?
Le Niger péton en fait partie.
Péton, pardon.
Oui, ou péton, c'est pareil. Ouais. il en fait partie, tout comme le Laosoukous qu'on a eu la chance de trouver au Laos cette fois-ci, parce qu'on ne fouille pas qu'en Afrique, on va aussi en Asie du Sud-Est, et puis on va en France.
Ouais.
On a des gisements français très intéressants qui correspondent à des anciennes, notamment mines de charbon.
Où ça, par exemple ?
Je pense à Buxières-les-Mines, qui est une petite ville dans l'Allier. Qui a hébergé une des dernières mines de charbon à ciel ouvert, où là, avec l'association Rhinopolis, qui est une association dédiée à la paléontologie et à sa vulgarisation, on a organisé des chantiers de fouilles bénévoles et on a trouvé plein de choses très intéressantes.
La Terre avant les dinosaures, Jean-Sébastien Steyer, et puis un cataclysme majeur il y a 250 millions d'années, on en parle avec vous dans un instant.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Vers la fin de la période permienne, il y a eu une série d'éruptions volcaniques massives dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Ces éruptions n'ont pas duré quelques jours ou même quelques années, mais environ 600 000 ans, avec d'énormes coulées de lave qui ont inondé la région. Et ce n'est pas la lave qui a causé l'extinction, mais plutôt les gaz volcaniques libérés dans l'atmosphère.
Extrait de la chaîne YouTube. Et si, sur la pire extinction de masse de l'histoire. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Sébastien Steyer?
Oui, les gaz et les cendres volcaniques, des mégatonnes de cendres qui sont éjectées par ces volcans en continu pendant 600 000 ans, voire
un peu plus. C'est la plus grosse crise qui ait connue la planète, selon nos informations.
Tout à fait, 90% statistiquement d'espèces sont rayées de la carte à cette époque-là.
Donc on est à quoi? 252 millions d'années précisément pour...
C'est ça, on est à la charnière entre l'ère primaire, le paléozoïque, et l'ère secondaire, le mésozoïque.
Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Alors il y a des éruptions sur un temps très très long, c'est ça?
C'est ça, donc des grosses éruptions volcaniques, des épanchements de basalte monstrueux qui façonnent et qui détruisent le paysage, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le paysage sibérien et du nord de la Chine. On appelle ça des trappes. Trappes, c'est un terme scandinave qui veut dire échelle ou escalier.
Escalier, parce que c'est ça.
Ça fait vraiment des marches de géants, en fait, dans le paysage. Sur des centaines de kilomètres carrés.
Donc, comme imaginer des coulées de boue géantes ou
Coulées de lave. Des coulées de gaz et de matériaux volcaniques, des cendres qui montent dans la stratosphère en continu. Donc, tout ça opacifie, en fait, le ciel.
Ouais.
Et les végétaux ne disparaissent pas, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas là. Mais ils se mettent en résilience, en dormance. Et il y a un arrêt momentané, en tout cas, de la photosynthèse. Et là, toutes les chaînes alimentaires ou écotrophiques, comme on dit aujourd'hui, sont affectées.
Ouais. Bah oui, tous nos herbivores, là, par exemple.
Caput.
Ah oui, c'est fini. Ciao, bye bye, merci d'être passé.
Oui. Il reste d'insignifiants lézaroïdes qui donneront...
Des
silésaures, donc...
Qu'est-ce que c'est?
ce sont des espèces de... Vous prenez le varan, vous lui mettez des membres érigés un peu comme les dinosaures, sous le corps.
Ah, vous faites bien le varan, les auditeurs ne le voient pas, mais vous me faites une imitation qui est assez saisissante. Ouais.
Et vous avez les silésaures, dont les premiers restes ont été trouvés en Silésie, donc dans le Trias, alors on est à peu près à 230-240 millions d'années en Pologne, la Silésie, et on s'est rendu compte que c'était des formes qui étaient très diversifiées déjà, dès le Trias, il y a moins de 240 millions d'années, même un petit peu avant, et on a trouvé des silésaures en Tanzanie avec les collègues américains, tanzaniens et sud-africains.
96% des espèces marines disparaissent.
Oui,
à ce moment-là. 70% des vertébrés terrestres disparaissent.
Oui.
Donc ça fait mal quand même.
Oui, c'est la plus grande catastrophe écologique en fait de l'histoire de la Terre. Ouais.
Est-ce qu'on peut faire une analogie avec la crise écologique que nous traversons? On n'est pas du tout dans la même dimension aujourd'hui.
Alors, on peut faire une analogie en pointant du doigt la modification climatique majeure que nous sommes en tant qu'humains en train de générer, parce qu'une modification climatique entraîne des conséquences dramatiques, en fait, sur les chaînes alimentaires. Par contre, nous, on a une échelle de temps et d'espace aussi très longue par rapport aux collègues écologues ou biologistes qui travaillent vraiment sur la septième extinction, donc celle d'aujourd'hui, et qui ont une définition, en fait, ou une résolution, si vous voulez, beaucoup plus fine par rapport à nous.
Ah, vous parlez de la septième, vous, extinction ?
Alors, si on les compte toutes, en fait, on oublie souvent la première grande extinction qu'on appelle la grande oxygénation, qui a eu lieu il y a environ 2 milliards d'années et qui touche des bactéries. En fait, on la met souvent de côté parce qu'on pense que c'est juste des bactéries, on s'en fout un peu, alors qu'elle est très importante.
Et on en a des traces hein?
Oui, on en a des traces dans le registre fossile. On a un shift entre différents types de bactéries, de fossiles, de traces, en fait, d'activité bactérienne. Et puis on a les roches aussi, et notamment la géochimie, l'analyse des composés en fait rocheux, qui nous indiquent que là, on a aussi un basculement en termes de climat.
Ce que vous nous dites, Jean-Sébastien Steyer, c'est que lorsque une espèce n'est plus capable de s'adapter à un changement climatique, elle s'éteint.
Oui.
Et c'est ce qui pourrait arriver à plein d'espèces, dont l'espèce humaine.
Oui, tout à fait. Oui. En fait, quand on fait de la paléontologie, on se rend compte qu'une espèce... Elle a une durée de vie limitée dans le temps, 10 millions d'années si vous êtes de type arthropode.
Ah, c'est une moyenne ça ?
C'est une moyenne à la louche, ce sont des chiffres à prendre à la louche, ce sont des moyennes qui, en fait, les écarts-types sont plus grands souvent que les moyennes, mais bon.
Donc 10 millions pour les arthropodes.
10 millions pour les arthropodes, 1 million d'années seulement, j'ai envie de dire, pour les vertébrés, dont nous faisons partie.
Ah oui.
Alors ça ne veut pas dire, puisque le plus ancien sapiens connu a 300 000 ans, je ne suis pas Nostradamus, je ne suis pas en train de vous dire que dans 700 000 ans c'est fini, quoique 700 000 ans c'est...
Ça pourrait même arriver plus tôt d'ailleurs, autrement vu les choses, non?
Mais en tout cas, ce qu'on observe dans les strates fossiles, c'est qu'une espèce, soit elle s'adapte, Enfin, c'est-à-dire qu'elle change, on parle de spéciation, soit elle s'éteint. Et là, on parle d'extinction.
Jean-Sébastien Steyer, cette grande extinction donc, il y a 250 millions d'années, l'arrivée des dinosaures, c'est quand alors ?
L'arrivée des dinosaures, on est à peu près à 235-240 millions d'années.
Donc il s'est passé quoi pendant ces 20 et quelques millions d'années ?
Alors, figurez-vous, qu'on n'a pas beaucoup de données en fait, sur ce qu'on appelle la base du Trias, sur cette époque charnière entre... Qu'est-ce qui se passe juste après l'extinction ? On observe dans le registre fossile, il y a très peu d'affleurements déjà dans le monde, qui correspondent à des dépôts continentaux qui peuvent nous donner une image de la Pangée après cette grande catastrophe, mais on a quand même des éléments. Et on voit qu'il y a un linceul de champignons géants qui est observé en fait, d'une manière assez globale sur cette Pangée-là.
Donc la Pangée, c'est vraiment le continent...
C'est le continent unique, qui constituait la géographie de l'époque.
Et il y avait des champignons géants.
Je me suis mal exprimé. C'est des rhizomes, en fait. On a des spores, on a un pic fongique de spores qui pourraient correspondre à un couvert de mycélium de champignons suite à de la matière organique en décomposition, en fait. Et puis, on a quelques survivants sur Terre, 10 petits pourcents d'amphibiens, c'est les fameux stégocéphales, de reptiles, dont ces espèces de lézards insignifiants qui, quelques millions d'années plus tard, par chance, vont donner les dinosaures d'une part, mais aussi les ptérosaures et tous les autres groupes de reptiles.
Donc ce grand nettoyage d'il y a 252 millions d'années, on peut imaginer que ça a un peu préparé le terrain, ça a offert une nouvelle niche écologique, en tout cas de nouvelles espèces hein.
Quelque part, oui. Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que une niche écologique reste peu souvent vacante. Il peut y avoir de la vie qui s'installe à l'intérieur, mais malgré l'extinction, la nature a horreur du vide, ou la vie trouve toujours son chemin, comme disait Ian Malcolm dans Jurassic Park, et les espèces se réinstallent assez rapidement, quand il en reste.
Allez, on passe aux questions. Gilles vous salue, Jean-Sébastien Steyer. Il vous demande, est-ce que vous pourriez nous dire qui était l'ancêtre du ptérodactyle ? Je vous remercie.
Ah, très bonne question. Alors, les ptérosaures, c'est un groupe vraiment à part entière. On le confond souvent avec des dinosaures volants, mais c'est vraiment un groupe de reptiles. Et l'origine reste encore assez mystérieuse des ptérosaures, parce qu'on n'a pas de fossiles qui présentent une mosaïque de caractères. Les ptérosaures sont caractérisés par un doigt, le doigt numéro 4 en fait, l'annulaire super allongé. On n'a pas de fossiles avec des doigts de taille moyenne. Donc on n'est pas encore capable de répondre avec précision à cette question.
Huguette nous dit, on trouve des traces de tétrapodes dans le Permien à côté du lac du Salagou, dans l'Hérault. Et c'est super beau et émouvant de voir leurs traces, environ 951 empreintes de pas.
Oui, tout à fait. Je travaille d'ailleurs dans ces terres rouges tout autour du lac Salagou, dans la région de l'Odève, qui est un géoparc maintenant. Et il y a un joli musée à l'Odève qui expose justement toutes ces recherches.
Paul nous dit, les libellules actuelles font des mouvements d'ailes rapides. Sait-on comment ça se passait le vol d'une libellule géante préhistorique ? Est-ce que leur mouvement était aussi rapide et est-ce que la taille empêchait ce type de mouvement ?
Alors c'est une très bonne question. Mon collègue spécialiste de l'évolution des insectes, Romain Garouste, est en train justement d'encadrer une thèse sur le sujet.
Oui, il faudra qu'on l'invite alors. Hein.
Exactement.
Donc vous n'avez pas de réponse pour l'instant.
J'ai pas de réponse.
Anna, qui est stagiaire de 3e et est en régie, demande quel est le continent où on a retrouvé le plus de fossiles de dinosaures ? Parce que vos histoires d'avant les dinosaures, ça n'intéresse pas beaucoup. Faire parler des dinosaures.
C'est difficile de faire un comptage. Je pense que chaque continent a vraiment son lot de dinosaures intéressants, tout aussi intéressants les uns que les autres en termes de continents.
Oui.
En ce moment, on parle beaucoup de dinosaures chinois depuis quelques années, parce qu'ils sont quand même assez intéressants, parce que notamment, ils présentent des plumes.
Mais on en a des très beaux en France aussi.
En Charente, par exemple. À Anjac, c'est le chantier de fouilles préféré de mon collègue Ronan Alain. On en a dans le sud de la France, dans la région d'Espéraza, on en a dans l'Hérault, on en a un petit peu partout, en fait.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Steyer. Je renvoie sur deux livres. Le plus ancien, La Terre avant les dinosaures, c'est chez Belin. Et le plus récent, pour ceux qui aiment les dinosaures et la science-fiction, c'est Jurassic Park et les sciences. Vous êtes amusé justement à explorer tout ce que nous racontent les films autour de Jurassic Park et elle est confrontée à la science. Et c'est aux éditions Belin. Merci beaucoup à vous.
Merci
d'être venu dans La Terre au carré.